un 15 février de grisaille. Et sur une plage, 21 hommes en combinaison orange, agenouillés, dans une mise en scène macabre. Ils vont être mis à mort peu après. Ce qui frappe dans cette image, peut-être l'une des plus marquantes de ce siècle, n'est pas l'horrible violence qui se manifeste et se prépare. Ce qui écrase tout, c'est la sérénité de ces hommes qui sont en train de murmurer « Mon Seigneur Jésus ». Dans cette image, dans ces instants du martyr de ces ouvriers exécutés par des islamistes, nous avons déjà le portrait de ce que est l'Église copte et l'Église catholique ont inscrit désormais à leur martyrologe. Parmi ces 21 hommes, il y a 20 Libyens, coptes, et il y a un Ghanéen. Un Ghanéen dont on ne connaît pas le nom. Désormais, la postérité l'a baptisé, Matthieu. Un homme dont personne ne va venir ni pleurer, ni réclamer la dépouille. Un homme dont l'histoire est incertaine. Des récits forcément incomplets et hypothétiques nous disent qu'il est peut-être un des anciens geôliers, qu'il s'est peut-être converti au contact des prisonniers. Mais un point revient dans cette histoire inconnue. Lorsqu'à un moment donné, il les sommait de choisir, il a répondu à ses bourreaux et ses tortionnaires. Leur Dieu est mon Dieu. Nous n'en savons pas davantage de cette femme, de cette maman éplorée, insistante, de l'Évangile, qui ne recule pas devant l'adversité, qui ne recule pas devant l'éloignement, et qui est poussée puissamment, irrésistiblement, par l'amour pour sa fille, mais dont nous comprenons rapidement qu'elle n'est pas poussée que par l'amour pour sa fille. Parce que l'Évangile nous donne ici le portrait et le chemin d'une croyante, à travers une étrangère au peuple juif. Et quelle étrangère ? Une fille du Canaan Oni, une adoratrice de divinités un peu incertaine pour nous. Les archéologues débattent encore à ce sujet. Parmi ces divinités, il y a peut-être Moloch, l'une des figures de divinités païennes les plus sanguinaires. Il y a aussi un panthéon au nom qui traverse la Bible, Baal, Astarté, et qui est un système d'explication du cycle et des forces de la nature, qui est aussi un système d'explication, de personnification des passions humaines, la guerre, l'amour, la fécondité. Une femme qui vient d'un monde où on adore des divinités nationales. Chacun a la ou les siennes et se distingue comme cela. Mais c'est cette femme qui, comme un centurion romain, un autre païen, et quel païen, va entendre louer sa foi par l'auteur, le maître et l'objet de la foi, et va se voir exaucée alors qu'elle forme, comme le centurion, une prière pour un autre. Ce que l'Évangile nous donne donc à contempler et méditer, c'est ce qu'est la foi et le parcours de la foi. C'est, bien sûr, qui est le Christ, et c'est aussi qui est l'Église. Cette femme sans nom, venue d'ailleurs, nous fait entrer dans le mystère de l'Église, comme Rahab, la prostituée, nous fait entrer dans le mystère de l'Église. Quant à la foi, d'abord, nous comprenons donc qu'il y a une unique foi. foi. Cette femme ne croit pas en ses dieux et ne se met pas à s'intéresser à un rabbi magicien. Cette femme a fait, de toute évidence, un chemin, un parcours qui déjà la place dans la direction et sur la voie de l'unique foi, en l'unique Dieu. Ce parcours, le peuple élu lui-même a eu à le faire. Lorsque, aux patriarches successifs, Dieu apparaît et se manifeste, il commence par dire « Je suis le Dieu de ton père ». Le Dieu qui a tiré ton père Abraham et son grand-père du pays où vous étiez, qui vous a tiré de vos divinités pour vous amener jusqu'ici. Et nous voyons aussi un autre élément très important. Nous voyons ce qui n'est pas écrit, la singularité de ce parcours. Que s'est-il passé dans le cœur de cette femme, dans son intelligence, pour qu'elle vienne demander à cet étranger, à ce rabbi sans doute renommé comme thaumaturge, mais qui est un homme du lointain pour elle, autant qu'elle est lointaine pour le peuple de ce rabbi. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à venir ? Cela, c'est l'œuvre qui appartient à Dieu seul et à ce cœur, ce qui n'est pas écrit. Que voyons-nous aussi ? Que ce parcours est d'évidence un parcours personnel. Ce qui vient sceller l'acte de foi, c'est cette rencontre personnelle. C'est cette rencontre face à face avec celui qui est Dieu et qui est le visage de Dieu, le Christ. Voilà, et c'est tout à fait normal pour l'Évangile, le deuxième grand enseignement. Cette femme vient rencontrer, adorer, le terme est sans équivoque, et supplier celui qui vient lui-même accomplir le salut voulu par Dieu depuis la première faute et pour tous les hommes. Cette promesse, elle n'est pas venue, en effet, avec le Christ. C'est ce que nous avons entendu dans la prophétie d'Isaïe. 8 siècles avant le Christ, le prophète, dans la dernière partie du livre d'Isaïe, dit « Tout ceci est par un peuple, mais tout ceci est pour tous les peuples. » Et Paul, dans l'enseignement qui fut notre deuxième lecture, explique aussi cela. Il explique que ce mystère, pour lui, ô combien saisissant, ô combien douloureux aussi, de l'ancien et du nouvel Israël, de l'Israël de la première alliance et de ce nouveau peuple, qui ne doivent en faire qu'un et qui sont tous retenus, chacun là où ils sont, les païens qui furent appelés, Israël qui ne reconnaît pas encore le Messie, pour qu'il soit fait à tous miséricorde. Alors, nous voyons le Christ et nous voyons le mouvement de cette femme. Voilà le Christ qui entre sur ce territoire qui n'est pas celui du peuple élu. Voilà cette femme qui sort de là où elle est pour venir à la rencontre du Christ et se voit opposer des paroles qui ne cessent à nous auditeurs fréquents de cette péricope toujours un peu de nous choquer, osons le dire, par leur dureté. Mais le Christ ne fait qu'énoncer le dessein de salut de Dieu. Ce dessein est passé par ce peuple qui est, comme le dit maintenant la grande prière du Vendredi Saint dans la liturgie, celui à qui Dieu a parlé en premier. C'est par ce peuple, voué spécialement, unique dans toute l'histoire, pour être le témoin et le prêtre du Dieu vivant et vrai, que se fait connaître ce Dieu vivant et vrai. Et cette femme ne se trompe pas. Elle n'est pas allée au sanctuaire des Juifs. Elle n'est pas allée voir un prêtre des Juifs. Elle n'est pas allée voir un scribe des Juifs. Elle est allée le voir, lui, le Dieu sauveur. Elle est plus, pourrait-on dire, que ces craignants Dieu qui étaient présents parmi les païens et qui demandent à rencontrer Jésus, à Philippe. Philippe va le dire à d'autres apôtres. C'est le récit du quatrième évangile que nous connaissons, qui est le Christ tête de tous les hommes, le véritable nouvel Adam, celui qui, en tant qu'il est homme et Dieu, par sa seule opération, sauve tout le genre humain. Et nous sommes, dès lors, un peu plus éclairés sur cette quête de Dieu. Il ne s'agit pas d'un forage pour trouver une source pure, mais il s'agit d'une eau disponible à profusion de laquelle on s'approche. Dieu, pardonnez-moi cette comparaison de saison, même en creux, Dieu n'est pas une nappe phréatique. Dieu, c'est un océan sans limite auquel conduisent des ruisseaux, des rivières, des fleuves, jusqu'à cet océan lui-même. Alors voilà qui nous est dit aussi, et c'est le troisième enseignement, sur le mystère de l'Église. Ce mystère de l'Église qui, reconnaissons-le, a pris son temps pour être bien explicité théologiquement. Un grand théologien et un grand martyr des débuts de l'Église, Saint Cyprien de Carthage, nous a laissé une phrase d'une profondeur et d'une beauté extraordinaire. Hors de l'Église, point de salut. Mais cette phrase, il fallait bien la comprendre. Et cela a pris du temps. Parce qu'il n'est pas question ici d'un ensemble visible. Cet ensemble visible, il est essentiel parce qu'il rend visible, indubitablement, une réalité plus vaste qu'il contient, qu'il représente. Mais c'est par le moyen d'abord de la communion avec le Christ, ce qu'est l'Église dans sa réalité divine et mystique. C'est par ce moyen-là que tous les hommes sont sauvés. Et c'est par ce seul et unique moyen que les hommes peuvent être sauvés. Cette communion au Christ, pour les hommes, elle s'ouvre dans la béatitude éternelle, mais elle s'ouvre déjà dans la charité. Elle s'ouvre aussi dans la foi. Alors, certains ont pleinement réalisé l'acte de foi, l'acte de charité. Certains sont aussi dans la béatitude. D'autres sont en chemin, pour le dire un peu plus précisément, en puissance de cette communion avec le Christ. Pour une partie d'entre eux, cette puissance va se réaliser en acte. Pour d'autres, elle restera puissance. Mais le Christ est la tête de tous les hommes. Alors, l'observance ne va pas suffire. Notre péricope suit celle où Jésus donne ce grand enseignement sur le pur et sur l'impur. La question n'est pas seulement l'observance de la loi, surtout si l'on a oublié que la loi est un chemin, que la loi est un moyen. Cette communion avec le Christ, elle va se faire dans l'amour, dans tous les actes d'amour posés par chaque homme, dans tous les actes de droiture, dans la recherche de la vérité posés par chaque homme. Et si c'est l'Église qui seule est le moyen du salut dans le Christ qui lui seul sauve, nous sommes, nous, très impliqués dans cette histoire au titre de la communion des saints. Notre prière, notre propre foi porte la quête de tous ces hommes, de toutes ces femmes, se porte garant de leur chemin de foi, se porte aussi garant qu'ils rencontreront des témoins de la foi sur leur chemin, qu'ils rencontreront des lieux et des apôtres de la charité et de la miséricorde. C'est donc, au-delà de cette seule femme et de la guérison de sa fille, une très très grande histoire dont il est question et qui nous concerne tous. Amen.